Musicopolis. Gluck, Vienne, 1767. Gluck s'est installé à Vienne en 1750. Il s'est marié avec une jeune fille de 18 ans, lui-même en a alors 36. Il commence à être connu et on le demande un peu partout. Il fait des voyages pour donner des opéras à Prague, à Naples. De retour à Vienne, il est engagé par le prince de Saxe-Hildburghausen, qui entretient un excellent orchestre. Le jeune violoniste Karl Ditters, qui deviendra un compositeur connu, raconte que les répétitions se faisaient avec le plus grand ordre et que pour les concerts, Gluck se mettait à la tête des violons. La chapelle du prince, écrit Ditters, était renforcée par un nombre important d'artistes des mieux choisis. Aussi n'était-il pas étonnant que nos académies fussent considérées comme les meilleures de tout Vienne. A été élevé en Bohême et il a fait ses études à Prague. En tant que compositeur, il est normal qu'il choisisse de s'installer à Vienne, le plus grand centre culturel d'Europe centrale et qui domine politiquement la Bohême. D'une manière générale, le pays a bonne réputation. Voici comment un voyageur français en parle dans les années 1750. L'Autriche, dont Vienne est la capitale, est un des meilleurs pays de l'Allemagne. Le Danube, l'Enz, le Traun et la Morave qui l'arrosent en fertilisent le terroir et y facilitent le commerce. Le poisson abonde dans les rivières, le gibier dans les forêts, les bestiaux dans les campagnes, les fruits dans les jardins, les habitants dans les villes, les villages et les bourgs. Je n'entends personne se plaindre de la cherté des denrées. Les hommes ne sont sujets ni au luxe de la table, ni à la dépense des habits. La cour, où il faut paraître en noir, leur ôte les occasions de se faire valoir par le vêtement. Et à l'exception de quelques jours de fête, où l'on se montre avec éclat, ils peuvent rétablir par leur épargne les désordres que cause la vanité de leurs femmes. Bâti dans l'endroit où une petite rivière qui lui donne son nom se jette dans le Danube, nous dit un voyageur français, Vienne jouit d'une situation agréable sur un terrain uni et bordé de montagnes couvertes de bois et de vignobles. Notre voyageur déplore cependant la malignité de l'air due à l'humidité qui cause les cinq branches du Danube et à la quantité de boue et d'ordures qui remplissent les rues et qu'on néglige d'enlever. Il signale que la ville elle-même est petite, environnée de murailles, de fossés, de contrescarpes, et que ses rues sont courbes, étroites et sales en hiver. En revanche, les faubourgs, bien plus étendus et peuplés, sont remplis d'édifices superbes, des beaux palais, des maisons de plaisance et des jardins publics. Ces faubourgs sont séparés de la ville de tous côtés par une esplanade circulaire, large de 5 à 600 pas, où il est défendu de bâtir. On en fait le tour en une heure sur les glacis. En tant que centre politique de l'Empire des Habsbourg, Vienne est bien sûr cosmopolite, ce que nous décrit notre voyageur français. Vienne est habitée par des Allemands, des Hongrois, des Italiens, des Français, des Espagnols, des Flamands, des Lorrains, des Savoyards, des Suisses, des Serbes, des Grecs, des Arméniens, des Turcs et des Juifs. Cette diversité de nations, d'usages, de religions, de caractères et de langage empêche la confiance réciproque et exclut toute espèce d'union. Les différentes cours qui tiennent ici leur siège ordinaire, le grand nombre d'étrangers que leurs affaires ou le commerce y attirent, et la multitude d'ouvriers qui travaillent dans toutes sortes de manufactures rendent cette capitale très vivante. On y fabrique des bas et des étoffes de soie, des galons d'or et d'argent, des tapisseries, des glaces, de la porcelaine, des instruments de musique, de la laque et diverses marchandises de clincaillerie. La cathédrale, nous dit notre guide de voyage, on compte à Vienne, où le peuple est extrêmement dévot, plus de 40 autres églises, médiocrement belles pour la plupart, et dont plusieurs sont accompagnées de maisons religieuses. Le peuple est d'une dévotion si excessive qu'il n'y a pas d'heure dans le jour que la cathédrale ne soit remplie de monde qui prie Dieu, même à haute voix, sous la direction d'un prêtre gagé pour présider à ses oraisons. De ce lieu de dévotion, les désœuvrés se rendent dans les cafés, où s'assemblent les nouvelles listes pour lire la gazette et raisonner des affaires du temps. Vous n'imaginez pas avec quelle liberté on y censure la conduite des généraux, des ministres et même celle de l'empereur. Le célèbre traité, conclu entre les cours de Vienne et de Versailles, le plus important qui se soit fait depuis la paix de Westphalie, fait le sujet de tous les entretiens et partage les sentiments. Quiconque réfléchira sans préjugés sur cette union la regardera comme l'ouvrage le plus utile à la tranquillité des États, au maintien d'une paix solide et à la conservation des droits de toutes les puissances. Les spectacles de Vienne fournissent aussi un ample sujet de conversation aux personnes désœuvrées qui fréquentent les cafés. La partie des spectacles que je regarde comme supérieure à Vienne, c'est celle des ballets, nous dit notre voyageur français. J'en ai vu de la plus grande magnificence. En effet, il a peut-être eu l'occasion d'admirer le ballet donné par Gluck en 1761, Don Juan ou le Festin de Pierre. Pour le mettre au point, Gluck a travaillé avec deux personnages très importants, deux Italiens, un librettiste et un danseur-chorégraphe. Le librettiste, Raniero Calzabigi, est un aventurier, un homme d'affaires, inventeur d'un genre de loterie qu'il a déjà essayé en France pour aider à la construction de l'école militaire. Il a passé une dizaine d'années à Paris, au moment où la querelle des bouffons faisait rage. C'est un partisan de la musique française et il a beaucoup d'idées sur la manière dont il faudrait réformer le théâtre lyrique et le ballet. Quant au chorégraphe Gasparo Angiolini, c'est un partisan du ballet pantomime. La préface du ballet Don Juan a été rédigée par Calzabigi au nom du chorégraphe Angiolini. C'est un ballet pantomime dans le goût des anciens, explique-t-il. Le sublime de l'ancienne danse était la pantomime, et celle-ci était l'art d'imiter les mœurs, les passions, les actions des dieux, des héros, des hommes, par des mouvements et des signes en cadence et propres à exprimer ce qu'on avait dessein de représenter. C'est le fruit de mes études que je présente au public. Et j'ouvre une nouvelle carrière aux maîtres de ballet qui auront les connaissances et les talents nécessaires pour y entrer. J'ai choisi pour mon coup d'essai une tragicomédie espagnole qui a réuni les suffrages de toutes les nations. C'est le Festin de Pierre. « Une fois passées les représentations du ballet Don Juan, le librettiste Calzavigi propose un autre livret à Gluck, cette fois-ci un livret d'opéra, d'après Virgile et Ovide. Calzavigi racontera des années plus tard comment s'est passée leur collaboration, je cite. « Je lui fis la lecture de mon Orphée et lui en déclamai plusieurs morceaux à plusieurs reprises, lui indiquant les nuances que je mettais dans ma déclamation, les suspensions, la lenteur, la rapidité, les sons de la voix tantôt chargés, tantôt affaiblis et négligés, dont je désirais qu'il fît usage pour sa composition. » Je le priais en même temps de bannir i passaggi, le cadenze, i ritornelli, c'est-à-dire toute la virtuosité vocale à destination des chanteurs, et tout ce qu'on a mis de gothique, de barbare, d'extravagant dans notre musique. Monsieur Gluck entra dans mes vues. Les principes de Calzabigi pour le livret de son Orfeo apportent beaucoup de nouveautés par rapport à l'opéra selon Métastase. Calzabigi prône l'unité d'action, la réduction du nombre des protagonistes, il tient à ce que les airs soient plus courts et bien intégrés dans des scènes cohérentes. Et surtout, il donne un rôle primordial au chœur qui devient un personnage à part entière. Gluck a 47 ans, l'année de l'Orfeo. Il avait lui aussi réfléchi à la réforme de l'opéra depuis toutes ces années passées à composer opéra italien et opéra français. Sa musique pour l'opéra italien est en quelque sorte révolutionnaire. Il supprime le récitatif avec clavecin et le sacro-saint aria da capo. Il donne un rôle nouveau à l'orchestre qui participe aux effets dramatiques, en particulier certains instruments comme le trombone ou la harpe. la seule concession que fait Gluck à l'ancien opéra Seria dans son Orfeo est de donner le rôle principal à un castrat, même s'il trouve que cette voix aiguë s'oppose à la vraisemblance de la pièce. Néanmoins, son interprète de la création, Gaetano Guadagni, entre tout à fait dans ses vues. Bonne voix, belle figure, brillant dans le chant, mais capricieux et rarement disposé à remplir son devoir. Voilà ce qu'ont dit de lui les directeurs du théâtre de Naples. Quoi qu'il en soit, avec Gluck, Guadagni est parfaitement disposé et il ne se permet pas de rajouter la moindre note à la partition du maître. Le caractère de Gluck n'est pas vraiment facile. Il s'emporte contre les musiciens et les chanteurs. Un contrebassiste de l'orchestre du Burgtheater, où est créé Orfeo en 1762, raconte ceci, je cite. « 20 fois, 30 fois ne suffisent pas pour faire répéter aux musiciens de l'orchestre les plus habiles, parmi lesquels il y a des virtuoses, les passages où il a en vue un effet d'ensemble. Alors il les brusque à tel point qu'il refuse souvent d'obéir et que seuls les encouragements de l'empereur « Vous savez bien qu'il est ainsi, mais dans le fond il n'est pas si méchant » ont pu les convaincre de jouer sous sa direction. Aussi faut-il au moins les payer double. Thank you. l'air du deuxième acte d'Orfeo ed Euridice de Gluck, Franco Fagioli contre-ténor, avec l'ensemble Accentus et l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Tahar Bouklifa pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.